capitaine.
Asseyez-vous, monsieur Anderson. Vous entendez? Asseyez-vous. Allons, assis. Dernier avertissement, Anderson.
Oh, capitaine, mon capitaine.
Monsieur Overstreet, je vous ordonne de vous asseoir. Assis. Tous, je vous ordonne de vous asseoir.
Libre Radio, la station debout. www.libradio.org.
Voilà, merci à la technique, c'est Igor aujourd'hui et nous recevons maintenant, donc nous sommes toujours le 9 décembre 2017, pas en direct aujourd'hui, par contre nous sommes bien en public depuis la maison de quartier des Paquis à l'occasion du marché de Noël artisanal qui a cours toute la journée aujourd'hui et encore, non c'est le dernier jour aujourd'hui, oui c'est le dernier jour aujourd'hui. Alors, nous sommes en compagnie de RJ et de Julie Eigenmann. Bienvenue à vous.
Bonjour.
Bonjour,
bonjour,
merci.
Bonjour. Est-ce que vous êtes bien installé? Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien?
Ça va super. Les mandarines sont très bonnes.
Ah, très
cool.
Bien.
Super. Les mandarines, tout ça, c'est Noël et tout et tout. Et donc, nous sommes ensemble parce que vous publiez, donc bientôt, hein, sous peu, une bande dessinée qui n'est pas vraiment une bande dessinée, mais on va en reparler dans quelques instants. Ça s'appelle Après l'arrivée. Et c'est publié, comment dire, sous, j'allais dire sous le contrôle, mais c'est pas ça, mais disons peut-être en lien de Vivre Ensemble. Peut-on dire?
Alors en fait, ça sera publié sous la forme d'un numéro spécial de la revue Vivre Ensemble, qui est un bulletin d'information sur le droit d'asile en Suisse.
Voilà, très bien. On va entrer tout doucement justement dans ces informations-là, parce que justement, ça n'est pas qu'une BD, c'est un reportage BD. Et effectivement, Julie, tu es journaliste, et donc c'est toi qui as l'initiative de ce projet au début, ou comment ça s'est passé? Comment est-ce que ça t'est... Comment ça a surgi?
Alors c'est Robin, ou RJ pour son nom de dessinateur, qui va peut-être l'expliquer un petit peu mieux que moi, parce que c'est lui qui est effectivement à l'initiative de ce projet-là.
Oui, c'est vrai que la réflexion autour de ça a commencé à l'été 2015, vraiment au moment où... au moment critique de ce qu'on a appelé la crise des migrants ou la crise de l'accueil. Et à ce moment-là, donc moi je travaillais déjà pour la revue Vivre Ensemble à ce moment-là, et je leur ai proposé de mener un projet un peu plus sérieux que juste des dessins uniques autour de cette thématique. Et finalement, en octobre 2016, quand la jungle de Calais a été démantelée, je leur ai proposé de parler justement de qu'est-ce qui se passe après la répartition de tous ces gens dans toute la France. Et j'ai proposé à Julie Eigenmann de m'aider pour ce reportage BD.
D'accord. Et Julie, alors toi, tu étais plus chargée, disons, du récit de cette histoire-là, de la partie rédactionnelle.
Alors, c'est vrai que le travail, bon, c'était vraiment une collaboration complète. On peut dire qu'on a fait vraiment un travail complémentaire, je pense. C'est vrai que sur la prise de contact, l'aspect journalistique dans ce sens-là, je m'en suis un peu plus chargée. Mais on a vraiment décidé ensemble, bah, d'abord du village qu'on choisissait, du village auquel on voulait s'intéresser, qui avait accueilli ces migrants. Ensuite, pour ce qui était prise de contact, ben voilà. Et sur le terrain, on a vraiment fait le travail ensemble, tout ce qui était interview, etc. Et puis après, ben voilà, même pour l'écriture en tant que telle, c'est vraiment un travail qu'on a fait ensemble, avec mon apport journalistique, avec son apport dessin. Ça a vraiment été, ben voilà, je ne sais pas ce que tu as envie d'ajouter sur ça, mais ça a vraiment été une collaboration.
D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup d'éléments d'enquête qui ont nécessité que tu fouilles des choses, ou les interviews ont-elles suffi à nourrir ce projet?
Ben oui, effectivement, je pense qu'il a fallu qu'on soit pas mal renseigné sur la situation globale de comment ça se passait en France, parce que c'est vrai qu'on savait pas forcément tout à l'avance. Ben c'est normal, donc on se renseigne pas mal
sur le sujet complexe,
sur le contexte, voilà.
Après, j'aimerais juste continuer ce que tu dis en précisant que les interviews qu'on a eues, non seulement les gens nous parlaient de manière complètement libre, et vraiment ça leur faisait presque plaisir de nous expliquer ce qui se passait et de nous en parler, mais on a eu du coup presque aucune réticence. On a vraiment eu toutes les informations qu'on voulait en parlant aux gens auxquels on a eu la chance de parler.
Un petit bémol, Julie?
Ouais, moi je venais en train un tout petit peu en disant que...
Préciser les gens, quels gens?
Ouais.
Alors justement, c'était un spectre large, c'est-à-dire on a parlé aux habitants, on a parlé aux gens qui travaillent sur le centre, évidemment aux réfugiés, aux maires, voilà.
Mm-hmm. Mais juste dire que c'était pas pas simple non plus, dans le sens où ben voilà, on voulait pas faire quelque chose d'orienté qui disait que c'était formidable, une situation qui s'était merveilleusement passée, ou au contraire une catastrophe, un exemple d'un village où l'accueil avait été terrible. On voulait vraiment que ça représente la situation telle qu'elle était, avec telle qu'elle était, avec ses aspects positifs et négatifs. Et dans ce sens-là, c'était parfois c'était difficile, en interrogeant les gens, évidemment, les gens nous parlaient volontiers, mais de ne pas tomber dans les clichés et puis de dépasser un petit peu parfois ce qu'on nous disait très facilement, effectivement, très naturellement. Les gens s'ouvraient à nous, c'est vrai. Et on a eu de la chance. On a eu de la chance d'avoir, notamment de la part du maire et des choses comme ça, des gens qui se sont ouverts aussi. Au niveau des migrants, on a eu la barrière de la langue, ça c'était pas facile.
Et les salariés du centre,
ils
sont vraiment confiés à nous.
Ouais. Mais c'est vrai que c'était pas. Il fallait aller. On a eu des entretiens très longs, et ça, je pense que c'était nécessaire. Et le fait qu'on ait passé quand même un certain temps là-bas pour dépasser peut-être les premières choses un petit peu basiques, peut-être qu'on aurait pu.
C'est vrai.
Qu'on aurait pu avoir.
Alors maintenant qu'on a un petit peu teasé les personnes qui vont écouter, on va préciser que c'est un reportage BD sur l'accueil des réfugiés, que ça s'appelle Après l'arrivée, parce que justement il y a cette idée d'arriver et ensuite. Mm-hmm. Hein, alors c'est Fourneau, petite commune de Savoie, qui accueille 33 jeunes hommes en provenance des campements de Calais, la jungle de Calais, plus communément appelée la jungle de Calais, qui a été.
Entre guillemets.
Démantelée. Et c'est du jour au lendemain que les requérants ont été débarqués et logés en urgence dans le froid d'une nuit d'octobre 2016. C'est comme ça que vous commencez par présenter ce projet-là. Alors,
exactement.
Ouais. Quand on arrive sur place, comment est-ce qu'on trouve la situation ? Est-ce que souvent on dit le premier regard est souvent celui qui reste ou celui qui est un peu le plus juste. Je ne sais pas si c'est un raccourci ou si c'est voilà, mais on dit c'est un peu une légende urbaine comme ça. Votre premier regard que vous posez là-bas, qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce qui vous suggère?
C'est vrai que ce qui était un petit peu particulier, c'est qu'on nous on n'est pas arrivé juste après, hein, on était là la première fois qu'on y allait, c'était en juin, donc ça faisait déjà pas mal de mois que les gens étaient là. Et puis premier regard, c'est un petit peu difficile de dire, mais
disons que le premier regard était un peu particulier parce qu'on savait où on mettait les pieds plus ou moins.
D'accord.
Parce qu'il y avait eu un travail de recherche avant.
Oui.
On avait vraiment, il y avait pas mal de coupures de presse sur ce qui s'était passé, même si d'ailleurs elles n'étaient pas du tout précises. Mais on a été surpris par certaines choses, mais
certaines choses, ressemblaient à ce que, au récit qui en avait
oui,
été fait.
Oui, et d'autres, alors au contraire, surtout certaines qui étaient à l'opposé de ce qu'on avait pu lire dans les journaux.
D'accord.
C'est vrai qu'une des choses, par exemple, qui nous a surpris, je pense qu'on peut le dire les deux, assez vite, c'est qu'on pensait, en fait, c'est aussi le récit qu'on lisait partout, que voilà, c'était un accueil finalement durable. Ces gens étaient là, et puis il y avait un peu cette espèce de récit un peu mythique que voilà, ces gens étaient là, puis ils allaient être accueillis durablement. Et en fait, pas du tout. Et le maire aussi était très clair sur ça. C'était un accueil de passage, c'est un centre d'accueil. Et d'orientation, mais d'orientation pour une suite, pour un ailleurs ensuite, en France probablement, si les réfugiés ont leurs papiers, mais ils n'étaient pas destinés à rester dans cette petite commune de Fourneau. C'est un accueil absolument temporaire. Et c'est vrai que ça change aussi complètement la vision qu'on se faisait du lieu, où nous on se disait, c'est beau, ils vont s'installer, enfin c'est beau entre guillemets, mais on avait l'impression qu'il y avait une sorte de récit un peu mythique autour de ça dans les coupures de presse qu'on avait pu voir. Et pas du tout. Et du coup, ça change complètement la façon dont on raconte quand on voit que c'est pas ça, quoi.
Et je compléterais juste ce que tu dis, dans le sens où, dans ces articles, on voyait des belles photos de ce groupe de migrants tous souriants. Et puis c'était vraiment, vraiment, c'était superficiel. C'est-à-dire que c'était, ils sont là, tout se passe bien, il y a un repas de bienvenue et on repart, quoi. Et puis ce qu'on a vu, c'est vraiment, c'est que c'est pas comme ça, quoi. C'est pas ça qui s'est passé.
On va revenir là-dessus, bien entendu. Juste avant ça, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on dessine quand on dessine ça, une BD avec ce sujet-là. Parce que voilà, il y a le dessin unique, il y a le strip et il y a la BD. Est-ce que là, il y a eu des. Est-ce que tu t'es imposé certaines contraintes qui sont spécifiques à ce projet ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que déjà, on m'a imposé des contraintes.
Certainement.
Dans le sens où simplement, au bout de quelques heures qu'ont mis les réfugiés qui ne parlaient pas français ou même pas anglais à comprendre ce qu'on faisait là, C'est simplement qu'ils nous ont dit on ne peut pas être représenté. Il ne faut pas qu'on voit nos visages. Ouais. Il ne faut pas qu'on connaisse nos noms par sécurité et puis aussi pour qu'ils puissent nous dire ce qu'ils ont envie de nous dire. Et là-dessus, j'ai dû inventer des personnages qui ne ressemblaient pas aux vrais personnages. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il fallait donner une importance donner une dimension empathique finalement à cette bande dessinée, parce que qui que ce soit, quel que soit l'interviewé, la personne qui nous parle, il s'ouvre vraiment à nous, et puis c'était important d'avoir une dimension humaine et une dimension qui va plus loin que juste ce que la personne nous dit.
Ok, et alors on a bien compris pour le dessin et pour l'écriture alors, parce que l'écriture BD, c'est pas l'écriture l'écriture journalistique en est une autre, l'écriture romanesque en est encore une autre. Alors là, quelles sont les contraintes qui t'ont été imposées ou que tu, de ton propre chef, t'es imposé?
Ce qui est intéressant, c'est que vraiment l'écriture, on l'a fait à deux. On pense
d'accord.
tout de suite que
c'est pas scindé comme ça.
Ça s'est pas scindé parce qu'on a vraiment, on a décidé la structure ensemble. Après, j'ai repris certaines parties de l'écriture et puis voilà, mais on l'a vraiment construite à deux. Et ça, je pense que c'était intéressant parce qu'on avait besoin de la construire à deux, parce que il fallait aussi. J'ai plus l'habitude des reportages journalistiques purs, et là, il fallait que ça colle avec. Ce que Robin allait devoir mettre en page. Du coup, il fallait vraiment le faire à deux. Et pour moi, c'était une expérience particulière parce que, effectivement, ça, mettre en image, ça demande une discipline tout autre.
J'imagine.
Donc, effectivement,
le nombre de mots également, j'imagine.
Le nombre de mots, donner la parole aux gens différemment par l'image. C'est un petit peu difficile à décrire comment.
En fait, il faut déjà que l'écriture, ou plutôt que le dessin, fasse complètement écho à l'écriture. C'est-à-dire que ça soit cohérent au niveau du lecteur. Il faut que le lecteur il voit une mise en page qui tourne bien entre le texte et l'image.
Compréhensible.
Et ça, c'était vraiment. C'est pour ça qu'on a dû faire le travail à deux.
Ouais. Et puis, dans le choix de. Ça, c'est comme tout travail journalistique, mais des fois, c'est vrai que c'était particulièrement difficile quand on pensait aux entretiens qu'on avait faits. C'est vrai, comme un peu tout travail journalistique, mais de choisir ce qu'on allait garder pour telle page dans le cadre d'un dessin. Ça, c'est vrai que. Ouais, c'était.
Okay. RJ veut. Ajouter quelque chose. Non, tu montes des choses. Oui, j'écris phonétiquement pour moi, si c'était ça la question. Alors, c'était le sens de ma prochaine question, qui est un petit peu une boutade. Y a-t-il un dessin que RJ a commis qui t'a choqué, bouleversé ou dont tu ne voulais pas? Et Julie a-t-elle émis des mots que tu as ressenti comme pas bon par rapport au dessin ou totalement sorti du contexte ou quoi? Comment ça se passe
Peut-être je réponds en premier. La réponse, c'est que oui, il y a eu des milliers de choses qui ne nous ont pas plu chez l'un chez l'autre, et c'est pour ça qu'il y a eu une phase de discussion presque sur tout ce qui se passait. C'est-à-dire que moi, à la base, je faisais une proposition de pages dessinées, mais quand Julie avait quelque chose à dire sur un dessin qui n'allait pas. Disons qu'il y avait un air sur un visage qui ne correspondait pas à ce qu'il fallait. Bien sûr, on s'écoutait. Et pareil pour les mots. C'est-à-dire, il y a certaines phrases, moi, j'aurais pas pu les mettre et Julie aurait vraiment voulu les mettre.
Julie,
ouais, la même chose, c'est vrai que.
Mais alors, on fait comment, au consensus? Pardon, je.
Oui. Je dirais qu'effectivement, pour les dessins, ça m'est moins arrivé de dire ce dessin, il va pas, moins. Parfois où je me suis dit là c'est un petit peu répétitif sur une page, il y a deux visages que tu as représenté un petit peu pareil, donc c'est un peu dommage ou des choses comme ça, mais c'est plutôt sur les textes où ça m'est arrivé de réagir plus fort en disant celui-là moi j'aurais vraiment voulu que ce soit écrit comme ça, vu qu'évidemment c'est plus mon affaire le texte. Ça m'est arrivé d'être moins d'accord. Et puis, comme on s'arrange, on discute et puis on trouve toujours une solution, je crois.
D'accord. À un moment donné, on tranche, on dit parce que j'imagine que ça peut n'avoir aucune pas de fin. Ça peut être.
Alors,
on argumente ou contre-argumente.
On est obligé de faire un choix à un moment c'est souvent des compromis. Après, c'est aussi, des fois, on est imposé par la place, quoi.
Exactement.
C'est-à-dire, des fois, il faut boucler une interview, par exemple, du maire. Et du coup, il faut faire un choix. Soit on met cette phrase, soit on met cette phrase. Et puis, il faut le décider.
Ok. Alors, comment se sont passés ces entretiens? Est-ce que les gens étaient informés qu'ils allaient ensuite apparaître sous cette forme-là dans la BD? premier volet de la question, après je reviendrai pour la seconde, ce sera l'ont-ils lu, vont-ils la lire, tout ça, tout ça. Mais on commence par, voilà, comment se sont passés ces entretiens?
Alors, c'était, on se présentait comme déjà qu'on était Suisses, parce que ça calmait pas mal les gens, et de voir que ceux qui nous écoutent peut-être ne le savent pas, mais on est jeunes.
Oui, je ne vous ai pas demandé votre âge. Allez, Hergé, quel âge as-tu?
24 ans.
Julie?
25 ans.
Ouais, vous êtes effectivement extrêmement jeune.
Et hein. Du coup, les gens se sentaient assez ouverts pour nous parler parce qu'ils n'avaient pas l'impression que ça allait impacter leur univers, finalement, je pense. On avait l'air assez inoffensif, peut-être. Et du coup, les gens sont ouverts très vite à nos questions et on a franchement eu très peu de mal à avoir ce qu'on voulait.
D'accord.
Oui, c'est vrai. Bah, au niveau simplement, c'est vrai qu'il y en a qui ont eu un petit peu peur quand même au niveau des réfugiés pour leur sécurité. On a eu notamment un entretien assez incroyable avec l'un d'entre eux qui après nous a dit, mais en fait ça vous pouvez pas vraiment le dire parce que sinon je vais avoir des ennuis. Puis on a dit non, mais attends, ce que tu nous as dit est tellement important que comment on s'arrange, on dit pas ton nom, on dessine autrement, mais est-ce que c'est possible? Ensuite un qui est revenu me dire, mais on est bien d'accord que aucun d'entre nous tu donnes nos noms. Puis j'ai bien précisé qu'effectivement ce serait pas le cas. Donc ils étaient tous informés du fait que tous les gens de façon générale et les autres à part les réfugiés apparaissent sous leur nom et puis sous leur véritable identité. Les réfugiés font exception puisque c'est pour une question de sécurité. Mais donc ouais, tous étaient informés de la façon dont ils allaient apparaître et puis ça a pas trop posé de problème.
J'ajouterais juste qu'on a été assez surpris. Parce que certaines personnes nous disaient des choses assez extrêmes sur ce thème, vraiment sans aucun problème, quoi, en sachant qu'on allait montrer leur visage.
Ils se sont livrés, on sentait qu'ils avaient besoin un peu la catharsis, tout ça.
Ah, alors, c'est même pas se livrer, c'est juste qu'ils ne se sont pas posés la question, ils assumaient complètement ce qu'ils disaient.
Okay,
puis, et des fois, c'était surprenant parce que ce qu'ils disaient était assez fort.
On sentait que sur cette thématique, c'est vrai que il y a pas mal de gens qui c'est leur quotidien difficile et puis que finalement c'était aussi une occasion d'en parler et que voilà c'était peut-être plus important finalement que de craindre d'éventuelles entre guillemets répercussions, même si je pense pas qu'il y a de répercussions parce qu'ils disent pas non plus des trucs
qui leur, cette liberté de parole, est-ce que vous l'avez constaté autant chez les habitants que chez les migrants que chez les assos ou les institutionnels, les politiques, tout ça, ou bien il y a quand même des groupes de personnes dont pour lesquelles c'était un petit peu plus suspect votre travail ou en tout cas plus délicat pour eux?
Ce qui est sûr, ce qu'il faut dire quand même, c'est que les réfugiés on a parlé à ceux qui pouvaient nous parler, dans le sens où il y a énormément qui ne parlaient ni anglais ni français.
Ouais.
Et du coup, forcément, déjà, ça limitait l'échange. Mais sinon, je n'ai pas eu l'impression qu'il y a eu de problème pour qu'on nous confie des choses. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julie.
Non, effectivement, je dirais que le rapport est effectivement différent dans le sens où on n'a pas une palette de réfugiés avec qui on a parlé. On en a principalement deux, un surtout, et qui se sont effectivement confiés sans trop de barrières, mais c'est peu. Mais effectivement, au niveau des associations, au niveau politique, ils se sont confiés. Après, je pense qu'encore une fois, ils se sont confiés, mais comme toujours, après, c'était notre travail de creuser un peu. Ils nous disent quand même toujours ce qu'ils ont envie de nous dire. Et puis, c'est à nous de creuser encore.
De mettre en perspective, évidemment, tout le travail journalistique, pour toi, là, ça a dû être sympa dans le sens où
intéressant,
il faut croiser, il faut tout ça. C'est très bien. Pourquoi une BD? Y a-t-il l'idée derrière d'expliquer, de contre-informer, de déconstruire des schémas? Vous en avez parlé tout à l'heure. Je ne sais pas. De dénoncer peut-être des situations, ou un peu de tout.
Ce qui est sûr, c'est que, bon, déjà, c'est vrai qu'on s'est orienté vers la BD parce que je leur ai proposé de travailler pour eux là-dessus. C'est clair que je n'allais pas proposer quelque chose sans dessin. Mais c'est vrai que la BD là-dessus apporte une dimension qui est vraiment complémentaire et surtout, on avait besoin de montrer ce qu'on voyait. Mmh. On avait besoin de montrer les lieux. Enfin, je pense que ça aurait été limité s'il y avait eu que du texte. Comme s'il n'y avait que du dessin d'ailleurs, mais et du coup c'était une manière d'avoir un rapport complet sur la situation Bah, j'espère que les lecteurs de la BD le verront.
Ouais. C'est assez inédit de traiter ce sujet-là, qui est un sujet délicat, au travers d'un art qui est quoi ? C'est le 8e art, la BD ?
9e art.
9e art, pardon. 9e art, dont certains détracteurs disent que c'est un art mineur, tu sais, ou quoi, quoi.
Alors, je parierais pas sur le fait qu'on est les premiers à le faire, parce qu'il y a quand même énormément de reportages BD qui se font depuis plusieurs années. Ni sur ce sujet, d'ailleurs, mais... Je pense que
ça a sa pertinence quoi qu'il en soit.
Oui, bien sûr. Ouais. Disons la bande dessinée maintenant a quand même, je pense, gagné ses lettres de noblesse et c'est plus vu comme un objet puéril.
Tout à fait d'accord avec toi, en tout cas de mon point de vue. À qui est-elle destinée selon vous ? Quand vous l'avez faite, vous l'aviez déjà d'une certaine manière destinée à un public ou pas ? Tout ça va avec la question d'après. Est-ce qu'ensuite on tourne, on va dans les écoles, on va aussi dans les salons de BD, tout ça, tout ça.
C'est une bonne question. Ouais, moi je pense que vraiment, encore une fois, c'est pas une BD qui est militante dans un sens qu'elle se destine à un public particulier. Elle veut vraiment être observatrice d'une situation et déconstruire juste une pensée simple et vraiment aller, après l'arrivée, aller un peu plus profondément dans les choses. Mais voilà, je pense que non, moi je la destine pas à un public particulier, à tous ceux que ça peut intéresser de d'observer cette situation qui est celle d'un village avec ses particularités en même temps qui raconte quelque chose de très universel. C'est un sujet qui a été pas mal traité quand même par d'autres reportages. Là, c'est vrai que c'est le côté BD reportage qui lui apporte une forme de particularité.
Au niveau du public, c'est vrai qu'à la base, vu qu'on réalise ce travail pour la revue Vivre Ensemble, qui a des abonnés, c'est d'abord destiné à eux, mais c'est clair qu'on a eu une impression qui, à 5500 exemplaires, qui nous permet de le diffuser bien plus que juste un numéro habituel, j'ai envie de dire, de cette revue.
De la revue, ouais.
Et du coup, c'était un moyen aussi de dépasser cette frontière-là et... Bon, je pense quand même que les gens qui vont lire, peut-être qu'on va un peu prêcher des convaincus, parce que les gens qui s'intéressent à ce sujet, ils vont plutôt dans un certain sens de l'accueil et pas du refus de l'autre. Mais c'est clair que absolument tout le monde peut lire, et c'est aussi pour ça qu'on ne voulait pas être militant. On a voulu montrer une réalité le plus fiablement possible.
Ouais.
On va revenir là-dessus après, mais effectivement, il y a un We Make It qui est en cours... qui a cours actuellement pour justement vous aider.
Encore 3 jours.
Encore 3 jours. Ah bah il y a 3 jours, c'est 3 jours, on sait jamais. Le dernier mécène qui va poser la somme qui manquera, ça sera peut-être là. Donc le We Make It, c'est pour vous aider à financer la finalisation du projet, l'impression des 5000 exemplaires du reportage BD ainsi que son envoi aux différentes personnes intéressées. Vous en êtes où dans le We Make It ? Vous avez déjà...
On a dépassé.
C'est ça, j'ai vu.
2100 francs.
Donc c'est cool.
La somme, donc ça, on est très très contents. On a la chance d'avoir à la base Vivre Ensemble qui nous a soutenus depuis le début dans ce projet. Et puis là, pour compléter, on a fait ce crowdfunding. Et puis c'est vrai que ça a marché au-delà de nos espérances,
le
dire.
Alors, il faut juste préciser nos magnifiques chiffres. En 5 jours, alors que le crowdfunding va durer un mois, en 5 jours, on avait déjà la somme qui
était complétée.
On était contents.
Et donc maintenant, c'est que du bonus.
Bon, je ne vais pas vous dire comment on est jaloux de ça, mais voilà, on va passer à une autre question, du coup, une question méchante. Est-ce qu'ils l'ont vu ou des esquisses ? Comment vous êtes arrangé avec ça en 10 ans ? Parce que moi, je me fais croquer. Si ça me va, j'ai peut-être envie de dire ouais, mais je peux voir un truc, je peux voir un peu comment vous faites. Vous avez fait comment ? Sur place, vous avez fait des esquisses, vous avez dit voilà, tu vas ressembler à ça ou quoi ?
Absolument pas. Alors, on a demandé si on pouvait les prendre en photo parce que ça serait dessiné, mais à aucun moment, il y a eu des demandes. Bon, bien sûr, il y a des gens qui refusaient de se faire prendre en photo, mais c'est plutôt des gens qui se faisaient pas interviewer parce qu'ils voulaient pas non plus parler.
Ouais.
Mais non, j'ai une liberté absolue, on m'a rien demandé là-dessus.
D'accord. Mais après, peut-être que vous, ce serait un travail pédagogique de genre aller retourner.
On va y aller, a priori, c'est prévu.
Vous avez prévu ça. D'accord. Ouais. Puis vous avez certainement ramené des trucs nouveaux, ça peut être intéressant. Ok. Alors justement, concernant ce retour et tout ça, alors vous allez vernir cette BD. Dites-nous les dates, le lieu, l'heure.
Eh bien, c'est le lundi 18 décembre à 18h30. À 18h, pardon, à 18h, l'horaire vient de changer.
À l'espace Sold Out. 3 Sentier des Saules. Donc c'est juste à côté de l'Ethno Bar du Pont sous terre.
Pont sous terre à droite, ouais.
Donc c'est, oui, c'est à côté de la salle du Silure, si les gens connaissent.
Absolument, oui. Alors chez nous, c'est plutôt les gens qui connaissent plutôt le Silure.
Très bien. Et je précise parce que ça vient de
changer. RJ dédicacera.
Oui, alors c'est une séance de dédicace. Et on a en ouverture une performance du chorégraphe Pascal Grava. Qui a orienté sa performance en fonction de autour de notre bande dessinée.
Très bien, excellent.
18h.
Site, adresse de contact si par ailleurs des personnes voudraient vous proposer de venir opérer une table ronde, une présentation de ça. Ça, c'est quelque chose auquel vous pensez? Pourquoi pas aller présenter cette BD en faisant une petite table ronde, un truc autour de ce sujet qui est un sujet ô combien d'actualité et délicat?
Bien sûr, bah, avec plaisir.
Avec peut-être même quelques originaux d'exposés.
Absolument, absolument.
Donc ça, ça, on peut lancer l'appel, vous êtes disponible.
Aucun souci, avec plaisir.
Je vais vous inviter.
Avec plaisir.
Je pense qu'on est contactable, disponible sur nos Facebook, c'est peut-être le plus simple, RJ ou Julie Eigenman, simplement.
D'accord, donc via le
Facebook. H-E-R-J-I.
Ok. Des choses de prévues après le vernissage d'ores et déjà ou non?
En lien avec le BD reportage, oui. Non, pas particulièrement.
À part le retour sur place, on va faire un espèce de vernissage sur place.
Sur place,
là-bas.
On pensait, ouais. Et puis parce que c'est vrai que, voilà, évidemment, les réfugiés vont. Une bonne partie des gens de Fourneau vont venir, le maire, des gens de l'association L'Assasson, donc il y a l'association d'accueil au centre d'accueil de Fourneau. Mais évidemment, les réfugiés ne vont pas pouvoir venir. Aucun d'entre eux, parce que pour une question de frontières, c'est un petit peu compliqué.
Voilà.
Mais on va nous venir, bon, parce que voilà, on tient à retourner sur place.
Et à le présenter en personne.
Et
faut pas qu'on prenne et qu'on parte avec la matière.
Mm-hmm. Et du coup, on va faire un petit retour en janvier.
D'accord. Il y a des liens particuliers qui sont tissés avec certaines personnes de là-bas, ou vous avez quand même pas eu le temps, ou vous avez voulu garder une distance pour des raisons.
Il y avait évidemment un besoin de garder une certaine distance pour simplement ne pas se sentir obligé de mettre certaines choses ou de mettre certaines choses.
Mm-hmm.
Après, oui, on a eu quelques contacts privilégiés, mais sans que ça soit plus profond que ça.
Mm-hmm.
D'accord. On arrive tranquillement au bout de l'entretien parce que je vois que l'heure file et que je sais que vous êtes occupé juste derrière. J'ai envie de vous demander, y a-t-il pour vous, bien sûr vous allez me dire oui, mais quel est-il ce avant et ce après, le moment où vous avez porté ce projet-là? Vous y êtes allé, vous vous êtes imprégné, ensuite vous avez mûri un truc que vous lâchez maintenant, que vous livrez, dont vous accouchez. Comment on se sent maintenant? Comment est-ce qu'on s'est senti avant?
Alors... Ce qui est certain, c'est que pour moi en particulier, je pense la réalisation de la BD et du coup de relire toute la matière qu'on a ramenée, on se replonge dedans et c'est vrai que des fois c'est assez lourd, c'est assez fort ce qu'on a ramené. J'avais l'impression de retourner là-bas avec les gens en face parce que je travaillais en plus sur les photos, sur les photos qu'on a ramenées. Donc j'étais vraiment, c'était assez prenant, je dois dire, ce travail. En plus, j'étais un peu dans ma grotte pendant un mois pour réaliser les dessins. C'était assez compliqué.
Julie.
Oui, ben, je pense aussi que c'est vrai que c'était un projet. On n'avait jamais fait de BD reportage ni l'un ni l'autre. Donc pour moi, je dirais qu'il y a vraiment un avant et un après dans ce sens-là, où c'était un peu l'inconnu. Et je sais pas, il y avait peut-être un petit côté de moi où je me disais je savais pas si on arriverait au bout. Et on est arrivé au bout où RJ au niveau des timings, on se demandait si c'était possible. Il a dû travailler un peu du matin au soir et voilà, donc ça aussi c'était une belle victoire. Et puis voilà, j'avais jamais collaboré aussi à ce point-là sur un projet et voilà, ça m'a donné envie d'en faire d'autres et puis de recollaborer comme ça. Donc
très bien. Eh bien, justement, deux petites questions et puis je m'arrête là. Ce format, selon vous, est-il adaptable à d'autres sujets? Et est-ce que ça vous a donné cette envie-là d'aller toucher à d'autres sujets? Et lesquels seraient-ils? Est-ce que des sujets sensibles, mais également pas? Ou, enfin, quoi qu'il en soit, avez-vous trouvé une pertinence et laquelle dans ce format-là?
Alors, déjà, pour les sujets, on va laisser le suspense pour notre public. Mais oui, bien sûr, moi je pense que ce n'est pas un hasard si ces dernières années, le reportage BD a un impact particulièrement fort sur les gens et ça crée clairement de l'intérêt auprès du public. Moi, je pense que c'est un format qui, encore une fois, a un apport humain, mais bien plus grand qu'un reportage où on ne voit pas qui est derrière la caméra, on ne voit pas qui pose les questions. Là, on est vraiment dans l'histoire et je pense que ça plaît beaucoup aux gens.
Mm-hmm. D'accord. Julie, tu veux compléter?
Oui, en tout cas, moi, je serais partante pour ce type de projet, encore une fois. Évidemment, après, le type de sujet, il faut voir. C'est vrai que un sujet aussi peut-être qui a été entre guillemets moins fait, ça m'intéresserait aussi. Et là, je trouvais difficile de partir sur quelque chose où on savait qu'il y avait déjà eu pas mal de reportages, peut-être photos qui avaient été faits aussi sur. C'était, je trouvais génial de pouvoir apporter le côté après l'arrivée, mais je trouvais dur parce que je trouve extrêmement important de parler de ce sujet-là. Et puis en même temps, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens où quand on disait il s'agit des réfugiés qui disaient « Ah, il y a déjà eu beaucoup de choses. » Puis après, quand on disait des reportages, ils disaient « Ah bon, bah, alors ça va, c'est nouveau. » Mais on avait l'impression qu'on devait presque apporter ça pour justifier le fait qu'on parlait d'un sujet qui avait déjà été médiatiquement traité. Et ça, je trouvais que c'était un petit peu difficile des fois de voir presque justifier ce choix de sujet. Donc voilà, si c'était un autre sujet, ben, peut-être quelque chose qui a jamais été traité en plus en BD reportage, ce serait génial.
En tout cas, voilà, photo-reportage, maintenant il y a du BD journalisme. Peut-on dire que vous initiez peut-être une nouvelle piste qui sera dans quelque temps enseignée dans les écoles de journalisme et dans les écoles de BD conjointement? Ça pourrait être marrant de voir ces deux choses se rapprocher comme ça. Dernière question, pourquoi, évidemment la question fondamentale, pourquoi faut-il lire cette BD?
Parce qu'elle est super.
En toute objectivité, à tout point de vue, elle est splendide.
Non, mais voilà. Sans me répéter, c'est une vision qui est très particulière et que les gens n'ont pas vue, je pense. Ouais. L'immense majorité des gens, déjà, ils sont saoulés de ce sujet parce que ils ont vu les mêmes reportages à la télé. Ils ont vu des gens sans visage qui vivent dans des tentes toutes pourries. Et ils ont envie de savoir ce qu'il y a derrière. Et j'espère qu'on leur montre un peu ce qui se passe après.
Merci Hergé. Julie, veux-tu conclure? Pourquoi faut-il lire cette BD selon toi?
Ben, parce que je pense que on y a mis beaucoup de nous et qu'on a essayé de faire vraiment la chose la plus représentative possible, à la fois la plus, disons, journalistiquement juste et en même temps sans perdre de notre subjectivité. Et je pense que c'est ça qui est très particulier et très sympathique dans le BD reportage aussi, c'est-à-dire qu'on peut être journalistique et puis ce côté très méthodique et en même temps, Hergé a pu aussi apporter sa touche personnelle et puis ensemble aussi dans l'écriture. Ce côté qui peut-être est un petit peu froid et manque dans le journalisme d'aujourd'hui, que le BD reportage peut amener.
Complémentaire donc.
J'aimerais juste préciser pour les auditeurs que la bande dessinée est commandable gratuitement en envoyant un mail à documentation@asile.ch. Donc c'est la boîte mail de Vivre Ensemble qui enverra les bandes dessinées à ceux qui le demandent. Voilà, ça c'est...
Précision fondamentale, ouais. Alors, on le rappelle, le 18 décembre, c'est-à-dire dans 9 jours maintenant, ce sera à partir de 18h au Sold Out, donc rue du Saule, chemin du Saule.
3 sentiers des Saules.
3 sentiers des Saules, ouais, merci. Donc, juste à côté de l'ethnobar, hein, comme tu le disais tout à l'heure. Eh bien, ce sera donc le vernissage avec donc une perfo en première partie, et puis ensuite, vous serez là avec notamment une séance de dédicace, hein, c'est ça?
Exactement.
Très bien. Je vous remercie beaucoup, Hergé, dessinateur. Et puis, Julie Hagenman, tu es la journaliste. Merci d'avoir pris sur votre temps pour nous présenter ce projet-là. On vous tient les pouces pour ce vernissage et puis on se retrouvera certainement, parce que pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. En tout cas, bravo pour l'initiative.
Merci beaucoup.
Bon week-end à vous. Ciao.
Bon week-end.
Voilà, petite pause musicale et puis on va enchaîner tranquillement. Je ne sais pas, normalement, là, c'est musique, non? C'est la chanteuse, non? Allez, petite pause musicale et puis on continue.
Fair, where days and nights cannot be told apart. The grass smells like summer spreading over the air. The children are oh so quiet. Yes, children are oh so quiet. distance fair. I'm willing to take you for a walk in the park, but some may be blinded by this burning glare, so you should think twice before you go. Yes, you should think twice before you go.
Mm-hmm. was smart and so funny. I gave him my number and we started seeing each other. Charmed by the way he talked, excited by the way he walked. I just wanted him to be mine, cause the feeling was so fine. He fucked me and he left me alone on my bed. I shouldn't have.
This is how the story starts when a girl.